Que faut-il retenir des discussions bilatérales à Paris et du forum économique organisé à Bercy en visioconférence avec Nouméa ? Le président du gouvernement, Alcide Ponga, était ce matin notre invité à 7h30. Une actualité politique qui est aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouverez dans ce journal. Une nouvelle semaine perturbée sur le front de la météo, les jours à venir seront encore très pluvieux. À une semaine de la rentrée scolaire, le début de nos pages spéciales, nous nous intéresserons aux opérations de solidarité autour des fournitures scolaires mises en place par les mairies de Nouméa et du Mont d'Or. En métropole, 120 policiers ratissent le bois des Templiers à Épinay-sur-Orge. C'est là que le corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé samedi. 109 milliards de francs d'investissement en France pour l'intelligence artificielle, annonce d'Emmanuel Macron à la veille de l'ouverture d'un forum sur le sujet à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et pour l'actualité sportive, rendez-vous dans le magazine des sports du lundi. Dès la fin de cette édition, Michael Juneski, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons rugby, c'était ce week-end la deuxième journée du tournoi Destination.
L'Irlande déjà lancée sur la route d'un grand chelem. Le 15 du trèfle est la dernière équipe invaincue. Après sa victoire chez les Écossais 32-18, le 15 du trèfle qui prend une bonne option sur le titre et la tête du classement. Les Français peuvent nourrir des regrets après la défaite à Twickenham d'un point à une minute de la fin du match contre l'Angleterre, 26-25. Mais les espoirs de victoire finale sont encore permis pour le 15 de France à deux semaines de retrouver l'équipe d'Italie.
Athlétisme avec une Calédonienne qui a brillé à Paris.
Affaiblie par un gros rhume et pourtant, c'est elle qui a mouché ses adversaires. Estem Wejiem nous a fait part de sa réaction après ce titre sur 200 mètres au championnat de France indoor. C'est au mental qu'elle est allée chercher cette médaille d'or prometteuse pour la suite.
Et puis nous parlerons des foulées solidaires.
La rentrée aussi à venir pour la course à pied, une épreuve sportive et caritative le 22 février. Au départ de Tina, les foulées solidaires. On verra le principe en détail avec Daniel Bonnefils, son organisateur, qui nous expliquera aussi comment se prépare la passation de pouvoir à la tête de l'organisation de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie, que lui et ses équipes ont porté à bout de bras pendant de nombreuses années.
On se retrouve donc pour le magazine des sports du lundi dès la fin de ce journal. Il participe depuis le début de la semaine aux discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel et samedi, il est intervenu en ouverture du forum économique. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, était notre invité ce matin à 7h30. Elisabeth Noir, il était en direct depuis Paris.
Ce forum économique s'est déroulé simultanément à Paris et à Nouméa où les participants étaient en visioconférence. Ce sont le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et la ministre déléguée aux comptes publics, Amélie de Montchalin, qui présidait les travaux et qui sont intervenus en ouverture. C'est ensuite le président du gouvernement qui a pris la parole. Un forum au cours duquel il a notamment été réaffirmé que l'État sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Et Alcide Ponga tient à rappeler que cela a toujours été le cas.
Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et d'ailleurs, la ministre des comptes publics l'a rappelé dans son discours d'ouverture. Quand on regarde l'ensemble des aides qui ont été attribuées depuis quelques années par l'État à la Nouvelle-Calédonie, et ça veut dire que l'État a toujours été aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Et les ministres présents ont rappelé à l'ensemble des acteurs calédoniens qu'ils seront à nos côtés pour essayer de relever ensemble le défi. Pour ma part, moi, j'ai aussi fait un appel à la responsabilité de tous, mais d'abord de nous les Calédoniens. Et j'ai rappelé qu'avec mes collègues du gouvernement, parmi les orientations que nous avions, c'était aussi de travailler pour montrer à l'État qu'on ne reste pas immobile face à une situation qui est devant nous. Donc certes, on va demander de l'aide à l'État, je pense qu'on sera accompagné, mais il va falloir aussi que nous fassions des efforts de nos côtés à plusieurs niveaux pour montrer aussi qu'on fait des choses aussi pour s'aider soi-même d'abord.
La Nouvelle-Calédonie doit s'aider elle-même et sans déflorer sa déclaration de politique générale, le président du gouvernement a tout de même indiqué les pistes de travail pour les réformes à venir.
Ce que je sais, c'est qu'il y a un travail à faire avant tout sur les dépenses publiques, de voir où c'est que l'ensemble des institutions au niveau du gouvernement peuvent faire l'effort, et en espérant que dans les autres collectivités aussi, on fera cet exercice-là et ce travail-là, parce qu'on doit tous le faire. Deuxièmement, de travailler sur les questions de relance économique. Donc vous avez parlé de l'aide de l'État pour la reconstruction. C'était prévu, mais ils attendaient que le budget soit voté au niveau national. Donc sur la relance économique, il y a une partie reconstruction qui sera assumée par l'État. Mais nous aussi, en Nouvelle-Calédonie, nous avons des secteurs dans lesquels nous devons faire le nécessaire pour que que le travail reprenne et qu'on puisse exploiter nos capacités pour contribuer également à la relance économique. Et puis enfin, il va falloir se pencher collectivement sur les questions de réforme et travailler l'ensemble des institutions avec les partenaires sociaux, avec les représentants non seulement des salariés, mais les représentants des entreprises pour voir quelle réforme fiscale il va falloir travailler.
Alcide Ponga qui rappelle à propos de fiscalité que depuis la mise en place de la TGC, ce sont 8 à 10 milliards de recettes qui manquent chaque année et que la Calédonie a donc perdu pas moins de 10 milliards. Il en appelle aujourd'hui à un effort collectif de tous les Calédoniens pour, dit-il, faire avancer les choses. Et puis nous avons également demandé à Alcide Ponga, sous sa casquette de président du Rassemblement, ce qu'il retient des discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel. Il ne cache pas une petite déception, il aurait souhaité aller plus loin.
Je dois vous avouer que j'étais venu à Paris pour un peu plus que des bilatérales. Donc, dépendamment de la position de mes collègues indépendantistes, notamment l'UCF-LNKS, on fera ou on fera pas une discussion tous ensemble. Bon, je salue quand même le fait qu'ils étaient là au niveau du forum économique, donc c'est déjà très bien. Mais sur les bilatérales, on est arrivé pour défendre un peu les positionnements de chacun. Et de ce que je comprends sur la méthodologie de Manuel Valls, c'est qu'il y aura une synthèse de ces dossiers-là, de chaque projet ou de chaque... Les éléments qui ont été apportés par les différents partis, le ministre des Outre-mer, le ministre d'État Manuel Valls fera une synthèse là-dessus, puis essaiera d'en sortir quelque chose. Mais j'espère aussi, sur ce point-là, que les élus politiques, à un moment donné, on assumera nos responsabilités, parce qu'on est en responsabilité, et qu'on puisse s'asseoir tous autour de la table pour pouvoir poser un cheminement en paix pour la sortie de l'accord de Nouméa.
Alcide Ponga qui espère que la venue de Manuel Valls se permettra d'avancer vers un chemin paisible. Pour lui, les questions politiques et économiques sont intimement liées et il affirme que la responsabilité des élus, c'est de trouver le chemin de la sortie. Ce n'est pas un choix, dit-il, c'est une obligation.
Une interview du président du gouvernement Alcide Ponga a retrouvé en podcast audio sur notre site internet. Les discussions bilatérales à Paris et le forum économique. C'est aussi, Elisabeth, le thème de votre chronique de la semaine écoulée.
En affirmant le soutien de l'État aux territoires touchés par des phénomènes naturels comme Mayotte ou par des phénomènes surnaturels, c'est-à-dire humains, comme en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer a surpris son auditoire. Tant personne n'avait jusqu'à présent pensé à qualifier de surnaturel les violences insurrectionnelles. Mais au-delà de la formule, Manuel Valls a prouvé dans son intervention devant le Forum économique qu'il a pleinement pris conscience de la situation. La Nouvelle-Calédonie est à terre, son économie est dévastée, a répété le ministre d'État, qui affirme aussi qu'il ne peut pas y avoir de relèvement économique sans un compromis politique, tout comme il ne peut pas y avoir de solution politique durable sans relèvement économique. Au terme d'une semaine de discussion bilatérale avec les délégations calédoniennes, il est donc convaincu que les deux sujets sont liés, comme ils l'ont été dans les accords précédents qui se sont accompagnés d'accords sur le nickel et sur le rééquilibrage. Mais si les représentants de l'État ont apporté des garanties sur les aides économiques et sur la volonté de Paris d'aider à la relance et à la reconstruction, sous réserve bien sûr d'un engagement de la Calédonie à se réformer, la recherche du compromis et de la solution politique durable semble plus aléatoire. Les échanges que Manuel Valls a eus avec les 6 délégations politiques calédoniennes ont été entourés de la plus grande discrétion. Pour l'instant, rien n'est sorti sur une quelconque avancée dans les déclarations faites à l'issue de ces entretiens. Et les 2 délégations indépendantistes se sont même quasiment dispensées de communiquer. On a bien compris que ces premiers entretiens sont en quelque sorte un tour de chauffe. Et d'ailleurs, Manuel Valls a souhaité rencontrer chacune des délégations une seconde fois après un premier tour des positions des uns et des autres. Ces premières rencontres visaient à clarifier les positions de chacun, à lever les malentendus et à approfondir la compréhension des projets d'avenir portés par chaque groupe. Et on ne sait pas si à l'issue de ces premiers entretiens, le ministre des Outre-mer est rassuré. Seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé, a-t-il martelé à l'Assemblée nationale. Et il doit avoir constaté à quel point les conditions du dialogue sont aujourd'hui loin d'être réunies. Dans cette même intervention où il répondait au député Emmanuel Tchibaou, qui s'en était pris violemment au projet de fédéralisme interne défendu par les partisans de la France, Manuel Valls a parlé d'une Nouvelle-Calédonie meurtrie, où le sang a de nouveau coulé, et où les fractures sont profondes et paraissent même irréductible. Il semble donc avoir pris la mesure des divergences qui existent entre les groupes politiques. Les partisans de la France ne se font d'ailleurs guère d'illusions quand ils constatent avoir face à eux des gens qui ne veulent pas d'accord. J'ai le sentiment d'un terrible retour en arrière, avoue le ministre des Outre-mer, rejoignant ainsi le sentiment de nombreux Calédoniens. Mais il veut y croire et il affirme que les accords de Matignon et de Nouméa sont le socle des discussions et qu'ils sont son ADN. Il appelle aussi ses interlocuteurs à être inventifs, ambitieux, courageux pour bâtir un compromis et sortir des positions radicales. C'est sans doute ce qu'il répétera à Nouméa lors de sa visite annoncée pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Son objectif, c'est bien de rechercher un projet commun pour la Nouvelle-Calédonie. Et on a envie de dire que s'il y arrive, c'est qu'il a des pouvoirs surnaturels, c'est-à-dire non pas humains, mais surhumains.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est évidemment retrouvée sur notre site internet. Elle sera aussi rediffusée cet après-midi, juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS et voici notre question du jour. Après une semaine de discussions bilatérales sur l'avenir institutionnel et la tenue samedi d'un forum économique, avez-vous le sentiment qu'une nouvelle dynamique est enclenchée pour la recherche d'un accord ? Si vous pensez qu'une nouvelle dynamique est enclenchée, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La première pause dans ce journal à 11h42, on verra ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie. Nous parlerons notamment de la météo et puis ce sera aussi notre première page spéciale rentrée scolaire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateurs, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gervolino à Magenta, 28 28 33.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
De la pluie la nuit dernière sur une grande partie du territoire et ça va durer. Un épisode pluvieux durable est en effet en cours avec des précipitations fréquentes, localement fortes et orageuses et notamment dans le nord et sur les Loyautés, Léo Fichou.
Oui, effectivement, Météo France Nouvelle-Calédonie a relevé 100 mm de pluie à Puébo, 84 à Poum et 74 à Lifou ces dernières 24 heures. Du côté de Poum, justement, la pluie tombe en continu depuis hier soir. Certains criques débordent déjà. Les détails de Fabrice Tidjine, agent municipal à Poum.
On a eu le pont de Golone qui est monté avec le pont de Nidjan jusqu'à ce matin. Et normalement, là, ça devrait redescendre à la marée basse. Là. Mais ça, si la pluie elle continue à persister, ça risque de remonter et puis s'accentuer avec la marée haute de cet après-midi. Quoi. Il y a pas mal de personnes qui ont fait demi-tour sur ces deux ouvrages. Les gens du coin, ils ont l'habitude au niveau des cyclones, donc tous les bateaux sont presque remontés, on va dire. Après, c'est les préconisations habituelles. De ne pas sortir vraiment dans le cas strict nécessaire. Quoi. Nous, au niveau de la commune, de maintenir les petits ponts, les petits ouvrages pour pouvoir que la route soit praticable. Mais après, une fois que le cyclone a décidé autrement, ben voilà, on est obligé de rester chez nous, cloîtrer chez nous, puis attendre que ça passe. Quoi.
Et la pluie qui devrait continuer de tomber ces prochaines heures, sur Poum notamment, mais aussi sur 16 autres communes du Nord. La vigilance orange, forte pluie, orage est donc maintenue. Le reste du territoire est en alerte jaune, forte pluie, orage. Une vigilance jaune, vent violent est également en place sur l'ensemble des communes du Nord et sur les Loyautés.
Et en raison des fortes précipitations enregistrées dans le Nord, notez que le service rail Koumak Poum Arama de 13h30 est annulé. À propos de transport, c'est aujourd'hui la reprise du réseau Taneo. Après les discussions causées par les émeutes sur les infrastructures, il a fallu adapter le réseau de transport. Des 30 lignes existantes, il n'en reste maintenant plus que 8. Les prix sont en hausse, les abonnements coûtent maintenant 8 000 à 12 000 francs selon les passes et le ticket reste à 500 francs. Autre nouveauté, les horaires de circulation des bus qui ne roulent pas entre 9h et 15h. Des changements qui impactent grandement les usagers du réseau rencontrés ce matin à Port-Moselle.
Je travaille 3 fois par semaine, temps partiel. Là, je suis bloquée pour le travail à cause du transport parce que je fais une une heure trois fois par semaine. Donc attendre pratiquement 6-7 heures qu'à 15 heures, c'est pas possible.
Vous utilisez les lignes de bus pour faire quel trajet ?
Pour aller de Auteuil jusqu'à l'université. Et c'est un gros inconvénient pour moi parce que ça terminait à 9 heures. Et mes cours, c'était à 9h45. Je ne savais pas du tout que ça terminait à 9h. Du coup, c'est un gros inconvénient pour moi. Je viens de payer le plafond, 8000 francs, mais c'est assez cher quand même. Sachant que je suis étudiante et j'ai d'autres choses à payer aussi.
Pour aller travailler, moi, je suis femme de ménage. Donc, j'avais peur qu'ils arrêtent les lignes qui passent où je vais y travailler. Je suis contente que ça reprenne, quoi. Mais c'est vrai qu'on marche énormément, quoi. C'est un peu compliqué parce que leurs horaires, c'est vraiment très minime. Non, je prends l'abonnement, mais voilà. Avant, je payais 8900. Maintenant, ils ont dit c'est 13 000, mais moi, pour moi, 13 000, c'est trop cher. Hein. Financièrement, ils sont dans le rouge. Quoi. Bon, après, on les comprend, hein, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson. Notez également qu'il n'y a plus de vente de tickets à bord des bus Taneo pour des raisons de sécurité. Pour acheter des titres de transport, il faut se rendre en agence ou dans un magasin dépositaire.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée a pris fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Le début de nos pages spéciales rentrée scolaire et parlons d'abord de cette opération réussie pour la mairie de Nouméa qui a récolté plusieurs centaines de fournitures scolaires à une semaine maintenant de la rentrée. Ça fait 15 jours que les Nouméens pouvaient déposer des articles neufs ou en bon état à la mairie annexe, Léana Colombo.
Oui, cette initiative avait un double objectif, celui de permettre aux familles dans le besoin d'avoir accès à des fournitures scolaires à petit prix, mais aussi de tendre vers une politique zéro déchet visée par la ville. Priscilla Rodriguez, chef de la section déchets de la ville de Nouméa, évoque un bilan plus que positif et souhaiterait même renouveler l'expérience les autres années. Écoutez.
Ça s'est très bien passé. On a une caisse bien remplie de fournitures scolaires. On a un beau tas de classeurs. Ça, je pense qu'il y a eu énormément d'entreprises ou d'administrations qui ont, étant donné qu'on est passé aux ordinateurs, qui ont déposé leurs classeurs. On a, par exemple, des personnes qui ont eu des sociétés qui ne fonctionnent plus, par exemple. Et il y a beaucoup de restes. Donc, on a beaucoup de matériel neuf, de cahiers qui ont été donnés parce que plus d'utilisation de la société, par exemple. Les premiers jours, la caisse se remplissait doucement, on va dire. Et après, au fur et à mesure des deux semaines, les gens sont arrivés jusqu'à vendredi 15h. On a même dû refuser parce que là, c'était encore des classeurs pour le coup qu'on a énormément. Mais les gens ont apprécié cette opération de pouvoir donner plutôt que jeter.
Toutes les fournitures scolaires ont été remises ce matin à la société Saint-Vincent-de-Paul. Ces dons seront ensuite redistribués aux familles dans le besoin avant la rentrée scolaire prévue la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour Dominique, membre de la société Saint-Vincent-de-Paul, qui s'est occupé de la logistique et du transport des articles ce matin.
Ça va bien remplir nos rayons. On a un espace dédié à tout ce qui est fourniture scolaire pour la rentrée. Je pourrais pas vous dire ce qui va partir le plus, mais bon, en règle générale, c'est vrai que c'est tout ce qui est cahier, stylo, règles, tout ce qui est petite fourniture déjà scolaire en premier lieu, et puis après, il voit pour le reste. Avec tout ce qui s'est passé, il est bien évident que les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les magasins, donc forcément, ils se rabattent sur les associations ou sur Saint-Vincent-de-Paul pour pouvoir trouver des prix très, très intéressant.
À l'approche de la rentrée scolaire, les initiatives solidaires se multiplient. La société Saint-Vincent-de-Paul organise par exemple depuis samedi dernier son opération cartable et calculette. Elle permet, comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, de trouver des cartables et des calculettes, mais à petit prix.
Cette opération solidarité est donc terminée à Nouméa. Elle débute au Mont-d'Or en revanche. La commune organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 février la 7e édition de la semaine de la rentrée solidaire. Ça se passe au centre d'éducation à l'environnement. Les Mont-Doriens sont invités à donner ou à venir récupérer en fonction de leurs besoins des fournitures scolaires et des vêtements de sport en bon état. Diana Burns est coéducatrice au Centre d'éducation à l'environnement.
Comme chaque année, en fait, on fait un don en fournitures scolaires. Essayer de justement essayer de consommer un peu autrement et de voir comment on peut réutiliser au lieu de jeter. Donc en fait, c'est très simple. Les administrés qui le souhaitent, ils ont encore des fournitures de leurs enfants de l'année dernière qu'ils ne vont plus utiliser. Ben, au lieu de les jeter, ils viennent les déposer ici. Et puis à côté de ça, ben, il va y avoir des familles qui vont venir cette semaine et la semaine prochaine. Donc en fonction de leurs besoins, on essaye de voir un peu comment on peut les aider. C'est beaucoup de solidarité. Ils peuvent déposer des stylos, des cartables, des tenues scolaires. C'est beaucoup demandé aussi. Après, il va y avoir des classeurs, des livres aussi pour les enfants. Et voilà.
L'accès au centre d'éducation à l'environnement du Mont d'Or est libre de 7h30 à 17h du lundi au vendredi et de 8h à midi le samedi. Notez que c'est aussi le coup d'envoi aujourd'hui du programme Sport Action de la ville de Nouméa, programme sportif, gratuit, accessible à tous. Il se déroule jusqu'au 28 novembre, une démarche éducative de découverte pour encourager les enfants à apprendre et à partager des bons moments autour des sports. Il y a du volley, du roller, de la pétanque, du tennis, du foot, du hockey et du basket. Il y en a donc pour tous les goûts. Les inscriptions se font directement auprès des éducateurs sportifs. Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 92 41 50, le 92 41 50. La rentrée scolaire, c'est donc dans une semaine. Mais les étudiants de l'université, eux, ont repris les cours ce matin, Charlotte Coulson.
Oui, c'est un grand changement pour ces jeunes qui quittent les bancs du lycée pour ceux de l'université. Et comme chaque année, l'équipe encadrante de l'Université de la Nouvelle-Calédonie se tient prête à accueillir les nouveaux étudiants dans la bienveillance et encore plus pour cette rentrée, comme l'explique Sylvian Raffard-Artigl, le directeur de la communication de l'université.
Cette année, c'est vrai que, comme d'habitude, mais peut-être encore un peu plus que les années précédentes, on a une attention particulière à l'accueil des étudiants. Donc voilà, la BU a rouvert avec son amplitude horaire maximale, j'ai envie de dire. C'est un outil qui est très important pour les étudiants, la bibliothèque universitaire, et puis il y a l'accompagnement, bien sûr, de tous les collègues, enseignants, chercheurs et administratifs, pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, on a beaucoup d'étudiants qui finalisent leur inscription administrative, mais bon, ça se passe dans la bienveillance. Et puis, on va continuer d'accueillir les étudiants, comme on l'a toujours fait, voilà, dans cette université qui est là pour eux, pour la Nouvelle-Calédonie et pour qu'ils préparent leur avenir dans les meilleures conditions.
Un bel accueil donc pour ces étudiants qui ont parfois assisté à leur premier cours magistral ce matin. Certains se préparaient à rentrer en cours, tandis que d'autres en sortaient tout juste. C'est avec un mélange de stress et d'excitation qu'ils commencent à trouver leur marque.
Ma première année, ça se passe bien pour l'instant. Les profs sont assez sympas, aussi la présidente, du coup, elle a dit son mot, etc. Elle a présenté un peu comment ça allait se passer. Ça nous rassure un peu, ça va, donc voilà. En vrai, j'ai hâte parce que c'est un cours que j'ai jamais eu. Du coup, je suis un peu curieuse. Maintenant, on verra comment ça se passe et voilà.
Tout premier cours de l'année, donc là, voilà, il faut prendre un peu ses marques, commencer à prendre des notes et voilà.
Ah c'était pas mal. Le prof était très sympathique. Il a même lâché quelques blagues, donc ça détend un peu l'atmosphère. C'est plutôt agréable, oui.
C'est très différent du lycée. Hein. On voit les prises de notes et tout, c'est plus différent. On est plutôt notes à la main. On n'est pas trop habitué sur les ordi. Pour l'instant, on essaie de s'adapter, essayer de voir comment ça se passe et voilà, on verra bien.
Et chaque année, c'est environ 3500 étudiants que l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueille dans plus de 40 formations.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Allez, on en vient maintenant à l'actualité dans la région qui est marquée par les intempéries dans le nord de l'État australien du Queensland. Une grande partie de l'État est déjà inondée et il continue de pleuvoir, ce qui rend la situation extrêmement compliquée sur place. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Certaines localités déjà inondées par le déluge de ces dernières semaines ont reçu 300 mm de pluie hier, notamment autour de Townsville et Ingham. Plus de 300 routes du Nord Queensland sont désormais coupées par les crues, y compris le Bruce Highway qui relie Brisbane à Cairns. Un ouvrage provisoire de l'armée a même été établi au-dessus d'un pont qui avait été emporté par les eaux. Des hélicoptères civils et militaires font désormais la navette pour acheminer des vivres dans les localités les plus touchées. Le bureau météo a indiqué pour sa part qu'une nouvelle période de forte pluie est à craindre à partir de demain dans tout le nord Queensland. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et notez que des orages ont également touché Sydney. Une femme de 43 ans, mère de 4 enfants, a été tuée par la chute d'un arbre qui venait d'être frappé par la foudre. 11h55, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Cette Saint-Valentin, offrez plus qu'un cadeau, offrez une émotion. La Cabosse d'Or vous propose des chocolats artisanaux fendants et raffinés, parfaits pour dire je t'aime. Faites fondre son cœur avec le plaisir du chocolat. Rendez-vous, 31 route du Vélodrome, téléphone 26 39 38.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec cette grosse inquiétude dans la ville d'Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne, c'est là que le corps de la petite Louise, 11 ans, a été retrouvé samedi dans le bois des Templiers. Elle avait disparu à la sortie de son collège vendredi soir. Un important dispositif de forces de l'ordre est sur place. 120 policiers ratissent le bois à la recherche d'indices pouvant permettre de retrouver le ou les meurtriers de la jeune fille. Évidemment, les habitants d'Épinay-sur-Orge sont inquiets, comme Youssef, 17 ans.
On aurait dit une scène de film, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Avec mes amis, ma famille, on parle de ça, quoi. C'est un choc. Ça fait peur, quoi, de penser qu'il est encore en liberté, qu'il peut s'attaquer encore à des enfants. Je pense à ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs. Je pense à eux, d'avoir peur pour eux, quoi. C'est très triste. C'est très triste de penser à elles.
Un homme et une femme ont été interpellés ce week-end avant d'être mis hors de cause. Les enquêteurs doivent aussi examiner des caméras de vidéoprotection sur lesquelles on voit un homme approcher de la jeune fille peu avant sa disparition. Emmanuel Macron veut placer la France sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Il organise la nuit prochaine pour nous à Paris un sommet sur l'IA auquel participeront des chefs d'entreprise du monde entier. Ça se passera au Grand Palais. On y annonce aussi la présence d'Elon Musk. Le chef de l'État voit dans ce sommet des opportunités économiques pour la France.
La France va accélérer et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. 109 milliards.
Et c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un tel investissement.
C'est la première fois parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc, c'est des investissements que les Émirats Arabes Unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. C'est des grands fonds d'investissement américains, canadiens. Ce sont aussi des entreprises françaises.
Emmanuel Macron sur le plateau de France 2 à la veille de ce sommet sur l'intelligence artificielle. Un rendez-vous qu'il a préparé en publiant des deepfakes sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire des vidéos entièrement créées par l'IA qui le mettent en scène dans différentes situations. Eux, l'intelligence artificielle, ce n'est pas leur problème. Les agriculteurs vont relancer leur mouvement de contestation. Il avait été mis entre parenthèses le temps des élections dans les chambres d'agriculture, mais l'inquiétude du monde agricole perdure sur l'accord du Mercosur, toujours en discussion. Dès la nuit prochaine pour nous, ils devraient mener des actions à la frontière entre la France et l'Espagne. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Retour à la mobilisation pour les agriculteurs un an après les blocages en Haute-Garonne. La contestation n'a jamais vraiment cessé. Demain, ils prendront la route pour bloquer des points stratégiques de la chaîne des Pyrénées. À l'origine de cet appel au blocage, Jérôme Bail, figure de la contestation agricole. Le leader du syndicat des Ultras de la 64 ne veut pas entendre parler du Mercosur.
Nous, on veut du protectionnisme national. On veut déjà une harmonisation des normes européennes, que tous les agriculteurs en Europe arrivent à produire pareil. Aujourd'hui, on est en train de faire la guerre. Nous, on a les pistolets à billes, eux, ils ont des kalachnikovs. On ne va pas survivre longtemps. Hein. Tout ce qu'on nous interdit de produire, des céréales OGM, de la viande aux hormones, de la céréale issue de la déforestation, c'était soi-disant dangereux pour la santé. Alors, je le conçois et je l'accepte. Mais par contre, qu'on ne nous autorise pas de le manger.
Les agriculteurs souhaitent mettre en place un blocage pédagogique, autrement dit, ralentir quelques minutes les automobilistes. Une opération escargot est également envisagée sur le parcours. Pour le moment, l'objectif est d'occuper le terrain au moins 72 heures. Une délégation espagnole sera également de la partie.
Alexis Bourdon pour Europe 1. Il est 11h59. C'est la fin de ce journal.